Ouest France, Le Figaro, La Croix, Les Échos ou encore 20 minutes, la lutte contre le dérèglement climatique est à la une de nombreux quotidiens aujourd'hui et pour cause. Un sommet international est organisé par les États-Unis à l'occasion de la Journée de la Terre, une journée annuelle dont les médias n'ont plus vraiment besoin pour parler d'environnement, tant le sujet est présent aujourd'hui à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite. Sur Internet et sur les réseaux sociaux également, à travers des chaînes YouTube, des comptes Facebook ou des projets numériques très engagés, à l'image de leur audience souvent très jeune. Bonjour Camille Etienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes militante écologiste, vous luttez pour la défense dans l'environnement, combat que vous menez entre autres dans l'espace numérique via Pensée Sauvage. En collectif, c'est comme ça qu'on pourrait le désigner ?
Absolument, oui, un duo artistique, ça me va très bien.
On va en parler avec nous également en ligne, Vincent Verza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vidéaste, activiste, vous aussi vous luttez contre le dérèglement climatique et vous le faites à travers votre chaîne Partager, c'est sympa, chaîne que vous déclinez sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Vous comptez près de 740 000 abonnés. Question à tous les deux, qu'est-ce que représente cette journée de la Terre pour vous ? Est-ce que c'est un moment important ou un moment comme les autres, Camille Etienne ?
Non, très honnêtement, c'est pas un moment important dans le sens où c'est une journée symbolique. C'est un peu comme quand on appelait ça encore la journée de la femme. Je trouve que c'est dommage d'y dédier qu'un jour. C'est même assez ridicule, sachant que l'intégralité du reste de l'année, il faut qu'on s'en soucie. Et puis c'est pas tant la journée de la Terre. C'est pas elle qui est en danger. C'est réellement nous, l'humanité. Elle a apparemment besoin de nous.
Même question pour vous, Vincent Verza. Est-ce que cette journée de la Terre représente quelque chose de particulier pour vous?
Bah, j'ai vu aujourd'hui que Facebook avait rajouté une petite terre coupée en deux avec un arbre qui pousse au milieu pour marquer le coup. Donc je pense qu'effectivement ça donne la mesure pour un géant du numérique comme eux de l'engagement que représente la journée de la Terre pour ce qui fait marcher le monde. À mon avis c'est effectivement symbolique et j'entends par exemple que là sur Europe 1 il y avait encore plein de pubs pour les bagnoles, donc on n'a pas encore complètement passé le pas du symbolique. Ouais.
Voilà, on en parlera de ça et je parlerai aussi d'initiative tout à l'heure de TF1 pour la publicité qu'ils souhaitent durable et ils font passer des messages à leurs annonceurs. Avant de parler de votre travail respectif sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien avoir votre regard sur la manière dont les médias traditionnels traitent l'environnement. On est ici une émission média, la télévision notamment. Est-ce que vous regardez les émissions, les documentaires qui sont consacrés au sujet ? Camille Etienne, je précise, parce que c'est générationnel également, je précise Camille Etienne que vous avez 22 ans, Vincent Verza à 30 ans. D'abord, Camille Etienne, est-ce que vous regardez les émissions télé consacrées à l'environnement ?
Ça m'arrive, oui, notamment pour savoir comment c'est traité, justement. Donc, quelle va être l'information que va avoir une grande partie de la population ? À mon sens, le problème, c'est que même quand je suis invitée sur des plateaux télé, souvent, on est mis en face de contradicteurs, comme si il y avait une question de proportion, comme s'il fallait mettre quelqu'un de convaincu puis quelqu'un d'un peu sceptique. Alors qu'en réalité, 99% des scientifiques sont unanimes, et puis il y a quelques-uns sur Twitter qui décident d'être dissidents en se basant sur des fausses études.
Sans faire le show en télé, c'est gênant d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous ?
Ah non, pas du tout, c'est pas du tout gênant de pas avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais la question c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. C'est pas une opinion en fait, le climat. Là, on parle d'une urgence que des milliers de scientifiques nous disent, et nous on essaie simplement de faire passer le message. Après, ouais, on peut ne pas être d'accord sur les solutions, ça c'est la politique, et dans ce cas c'est important d'avoir de la dissidence, bien évidemment.
Même question pour vous, Vincent Verza, est-ce que vous regardez les émissions, les documentaires qui sont consacrés à l'environnement ?
Il m'arrive, oui, sur Arte principalement, parce que j'aime bien comment est-ce qu'ils traitent ces infos-là. Après ça, j'écoute aussi les flash informations à la radio, pas trop à la télé. Et puis je vois qu'en fait, le problème, c'est partout pareil. C'est-à-dire qu'il y a une pensée en silo. L'environnement va faire l'objet d'une journée comme aujourd'hui. Et après ça, même au sein de cette journée, on va avoir toute une partie du journal qui va être consacrée à comment le robot sur Mars peut préparer le terrain à une installation des humains sur cette planète-là. Alors qu'il faudrait qu'on ait cette pensée. Ah, et d'ailleurs, voilà, comme c'est la journée de la Terre, il est nécessaire de se poser la question de la cohérence de ce projet de l'humanité versus le projet de maintenir les conditions de la vie sur Terre, la Terre qu'on connaît bien et qui est plutôt pas mal pour y habiter en fait.
Alors je voudrais qu'on se penche maintenant sur la manière dont vous traitez vous-même l'environnement. Les réseaux sociaux vous offrent une grande liberté. C'est vous qui choisissez vos sujets, le ton avec lequel vous allez en parler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très libre et très direct. Exemple avec vous, Vincent Verza.
Un truc vraiment louche a attiré mon attention cet été. Le gouvernement a fait des pieds et des mains pour retoquer une loi passée en 2016. Cette loi, obtenue de haute lutte, porte sur l'interdiction des néonicotinoïdes, des pesticides ultra nocifs pour l'environnement, que le gouvernement lui-même appelle « tueurs d'abeilles ». Vu que c'est une des rares victoires législatives des écolos qui vient d'être enterrée, j'ai mené l'enquête pour savoir qui tire les ficelles, pourquoi et comment ils s'y prennent. J'y connaissais franchement rien au dossier avant de commencer cette enquête. Du coup, tout naturellement, j'ai débuté par une recherche sur ce qu'étaient ces néonicotinoïdes dont tout le monde parlait. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sur le cul.
Ça vous a laissé sur le cul, ce ton direct, ce ton libre, une des caractéristiques des réseaux sociaux et de votre parole. Est-ce que c'est un ton qui correspond bien au sujet, Vincent Verza ?
Le ton, c'est celui de l'indignation, à vrai dire. Hein. Ouais. Enfin, je dis être laissé sur le cul, c'est réaliser qu'on est en train de jouer avec le printemps pour réussir à faire pousser des betteraves à sucre. Ça, moi, ça me laisse sur le cul, effectivement. Après ça, je pense qu'il y a besoin de s'adresser à chacun de la manière dont moi j'aimerais qu'on m'explique les choses, c'est-à-dire sans faux semblant, avec des mots qui sont à peu près compréhensibles, avec des mises en perspective aussi, avec des images. Et c'est sûr que c'est le problème qu'on a avec les politiques qui vont nous parler de chiffres sans parler après ça de ce qu'ils représentent. Et c'est ce qui leur permet de faire passer des mini-actions ultra-symboliques pour des grandes résolutions. C'est le cas tout dernièrement, là, j'ai entendu dans votre journal l'ONU qui proposait de mettre en place un nouveau système de comptabilité. Je veux dire, on n'a pas un problème, comme le disait Camille Etienne, pour savoir qu'on va beaucoup trop vite et beaucoup trop loin dans la destruction des conditions de la vie sur Terre, que notre modèle économique est totalement incompatible avec le fait d'avoir un avenir passé 2100. Donc, c'est pas des nouveaux indicateurs dont on a besoin. Ouais.
Sur le, au-delà du ton, pourquoi avoir choisi, question à tous les deux, les médias numériques et particulièrement les réseaux sociaux pour parler de la lutte contre l'environnement ? C'est un choix de fait ou c'est un choix imposé parce que les médias traditionnels ne voulaient pas de vous ? Camille et puis ensuite Vincent.
En fait, il faut comprendre que c'est une partie de ce qu'on fait. Je pense que Vincent comme moi, on a utilisé toutes les plateformes qui étaient disponibles. Ça veut dire qu'il y a aussi ce qui se passe en dehors des réseaux sociaux qu'on ne voit pas. Je fais beaucoup de lobbying politique auprès des décideurs. Il y a beaucoup d'autres manières d'impacter le monde. Mais c'est un outil comme un autre qu'il faut être capable d'utiliser. Il faut qu'on soit capable d'utiliser aussi les outils qu'on a aujourd'hui, les règles du jeu d'aujourd'hui, pour complètement bouleverser le plateau et l'issue du jeu, en fait, quelque part. Ça permet de toucher une audience jeune, pas uniquement jeune d'ailleurs, aussi, d'avoir une grande liberté, comme vous le disiez, sur une liberté de parole. Et pour moi, ça c'était intéressant d'utiliser en fait tout ce qu'a notre possession pour que l'information passe, parce que le savoir c'est le pouvoir. Donc si les gens sont au courant de l'urgence, je pense qu'ils auront beaucoup plus de facilité aussi à prendre le pouvoir.
Même question à vous, Vincent Verza. Les médias numériques, c'est un choix actif ou c'est un choix par défaut ?
Non, c'est un choix actif. C'est aussi simplement là où j'étais au moment où j'ai commencé il y a 5 ans. Donc ça avait du sens de parler depuis là où je suis. Et effectivement, je parle pas à des jeunes en réalité. Moi, j'ai la chance de parler à des 25-35 ans qui sont dans une possibilité justement d'agir là où peut-être le public plus jeune est souvent se sent plus impuissant parce que beaucoup plus cadré par l'école et les... Et l'absence de force économique pour faire changer les choses, quoi.
Sur le fond de votre discours, vous avez tous les deux des approches à la fois similaires mais aussi différentes. On en parle juste après une courte pause. On est avec Camille Etienne, membre du collectif Pensée Sauvage, et Vincent Verza. C'est la chaîne Partager, c'est sympa. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h. Philippe Vandel.
En compagnie de Camille Etienne du collectif Pensée Sauvage et Vincent Verza de la chaîne Partager, c'est sympa. Des nouvelles approches autour de l'environnement, loin des médias traditionnels. Sur le fond, je l'ai dit, vous avez tous les deux des approches à la fois similaires et en même temps différentes. Similaires parce que vous avez un discours assez radical, on va y revenir, et différentes parce que vous ne traitez pas le sujet de la même manière. Vincent Verza, vous traitez des sujets d'actualité. Est-ce que vous faites moins, Camille Etienne ? Votre vidéo, par exemple, Réveillons-nous, vidéo publiée l'an dernier, était une sorte de manifeste et aujourd'hui, vous apprêtez à tourner une série. Pourquoi avoir choisi ce discours-là assez général ?
En fait, on est complémentaires. Pour moi, il faut qu'on pense comme un écosystème, comme celui qu'on est en train de détruire, qui en fait fonctionne par effet de rebond. C'est-à-dire que chacun a sa place et chacun va à un moment donné servir à la cause. Moi, le travail de Vincent, j'appelle Vincent, mais Vincent Verza est hyper important pour moi. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup de choses de lui. Il va faire l'effort d'avoir toute l'information, ce que je fais aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, mais de manière moins structurée que lui. Et en fait, ils vont faire quelque chose de très digeste qui va, en quelques minutes, me donner l'essence et la complexité d'un problème précis sur l'environnement. Suite à ça, c'est de l'information que je peux après aussi derrière réutiliser pour faire quelque chose de plus général et de peut-être plus grand public. En fait, il faut pas partir du principe que tout le monde est au même niveau de conscience sur l'urgence écologique. On a des privilèges, on a un temps de cerveau disponible pour avoir accès à l'information, on a une éducation différente. Moi, mon rôle, c'est aussi de faire passer les gens à l'action qui sont encore un peu endormis, un peu latents et qui ne savent pas vraiment qu'en fait au fond d'eux il y a cette petite flamme pour se bouger quoi. Donc moi mon but c'est peut-être de faire ça et à travers l'art j'ai une partie plus artistique, une partie de fiction avec Solal Moisan qui est le réalisateur avec qui je travaille. Ce qu'on veut c'est que nos fictions impactent le réel, mais ça ne nous empêche pas de travailler beaucoup ensemble derrière avec Vincent et d'échanger aussi surtout sur ces questions-là.
Et vous Vincent Verza, pour faire écho à ce que vient de dire Camille Etienne, comment voyez-vous votre rôle?
Moi, mon rôle, il a évolué depuis le début. Au début, l'intention de la chaîne, c'était vraiment de donner l'envie et les moyens de passer à l'action pour construire un avenir juste et durable pour tous. Et on du coup, vulgarisait un sujet en moins de 5 minutes et on proposait à la fin un moyen d'action en lien avec ce que pouvaient proposer des associations ou des mobilisations qui étaient prévues. Et de plus en plus, on fait un travail de vraiment d'éducation populaire, d'essayer de vulgariser un maximum les sujets, d'effectivement mener faire un travail d'enquête. De manière à couvrir, à minima, c'est un peu la mission qu'on s'est fixée, les grands sujets qui vont impacter notre avenir pour les 5 prochaines années. Parce que malheureusement, voilà, il y a des grandes décisions qui sont en train d'être prises maintenant, qu'on relie pas forcément à l'enjeu écologique ou de la biodiversité, comme celui de la relance suite à la pandémie, qui est en fait peut-être la dernière occasion qu'a l'humanité d'éviter d'aller dans le mur.
Alors je le disais que vous aviez une vision assez radicale de la situation de notre planète. Vous dites en résumé qu'il faut changer de modèle, un discours parfois moqué. Exemple avec vous Camille Etienne, ça se passait l'an dernier, c'était à l'université d'été du MEDEF.
Je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui. Et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir.
Alors, vous êtes ici quand même à la REF du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité.
Il y a eu aussi quelques rires dans la salle quand vous aviez parlé de croissance. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes idéaliste, que vous défendez un point de vue de privilégié et que vous êtes déconnecté des réalités économiques, Camille Etienne?
En fait, on a confondu ce qu'était que le mythe et la réalité, justement. C'est-à-dire que l'économie, à la base, c'est bien ça qui est un mythe. L'économie, c'est censé être un moyen. C'est quelque chose qu'on a inventé, faut pas l'oublier. Qu'aujourd'hui, l'argent, un billet de 10 euros, si on décide collectivement demain que 10 euros ne vaut plus 10 euros, il ne vaut plus 10 euros. À l'inverse, il y a des réalités physiques, biologiques, chimiques qui sont des limites planétaires qu'on est en train de dépasser et qui vont entraîner des effets d'emballement contre lesquels on ne pourra pas lutter. Donc elles sont là, les réalités. Donc il faut simplement repositionner aussi qu'est-ce qui est une réalité, qu'est-ce qui est un mythe. C'est important pour moi de se rappeler de ça. Et pourquoi être radical? Radical, ça veut simplement dire aller à la racine du problème. Mmh. Et c'est manifestement ce qu'on fait plus quand on fait du greenwashing, quand on pense avec les mêmes schémas de pensée de croissance absolue. Je vais aller très vite, mais juste, la croissance aujourd'hui, elle est mesurée par le PIB. Moi, une croissance de la santé, de l'équité, du bonheur, de l'éducation, bien sûr que je suis pour. Maintenant, aujourd'hui, une marée noire est bonne pour l'économie parce que ça crée des points de PIB. Est-ce que c'est réellement comme ça qu'on veut mesurer le bien-être de nos citoyens? Je suis pas certaine.
Vincent Verza, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez une vision, ce vous est un vous très collectif, une vision trop noire, trop négative de ce qui se passe concrètement?
Eh bien, j'envie leur optimisme, parce que je ne sais pas sur quoi ils s'appuient, du coup. Je pense qu'il y a...
Je vais donner un exemple très très simple. Par exemple, l'automobile, il y a beaucoup de gens, et vous connaissez le poids des lobbies, qui consiste à dire l'automobile, ce sont des emplois. Tout le monde sait, par exemple, je cite ce chiffre de mémoire, que le diesel, c'est 38 000 morts par an, je crois, c'est le chiffre de l'OMS, je le cite de mémoire, s'en fiche. Mais si on interdit le diesel, vous mettez toute la France dans la rue. Tout le monde sait que les particules fines, c'est très dangereux. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas les interdire ex abrupto du jour au lendemain.
Ben je suis surtout pas surpris que la sortie du tout voiture en France prenne autant de temps quand je vois qu'il y a littéralement
au-delà,
à chaque page de pub.
Parlons pas de la sortie de la voiture. Pardonnez-moi, ne partons même pas de la sortie de la voiture. Je parle juste de interdire le diesel pour passer tout le monde à l'essence ou à l'électrique. Même ça, politiquement, c'est absolument impossible. Non, je dis pas que j'approuve. Je dis que c'est impossible.
C'est même pas la solution qui est proposée d'un point de vue écologique. Ça n'a pas de sens. En fait, l'idée c'est de sortir des solutions individuelles comme les modes de déplacement, que ce soit électrique, voiture ou essence ou diesel, c'est pas la solution. La solution, c'est les transports en commun. Le fait de construire une infrastructure qui permet de se déplacer en évitant que chacun ait sa petite bagnole et déplace sa tonne tout seul. Après, moi, j'ai envie de mettre un point sur l'optimisme. Je sais pourquoi est-ce que la différence entre le pessimisme et l'optimisme. Je sais que un certain nombre de décideurs s'appuient aujourd'hui sur les conseils des économistes pour prendre des décisions, y compris d'un point de vue environnemental. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le postulat de l'économie aujourd'hui, c'est que n'importe quelle ressource est remplaçable. Que si demain les abeilles disparaissent, eh ben, on mettra des drones dans les airs et c'est les drones qui feront le printemps.
Pardon,
moi, je
ne
pense pas que ce soit possible.
Non plus.
Donc c'est sûr que ce postulat-là est réel. Hein. C'est vraiment ce sur quoi s'appuient les modèles économiques pour définir les mesures qu'on doit prendre. C'est ces mêmes économistes qui ont l'oreille attentive des gouvernements aujourd'hui. Moi, je suis pessimiste parce que je vois qu'ils l'ont encore. Je serai optimiste le jour où je vois qu'il y a une rupture là-dedans, qu'il y a un cadre idéologique qui s'effondre, qui est celui du néolibéralisme et du capitalisme actuel, et qu'on écoute d'autres personnes. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec Camille Etienne.
Alors, on se rend compte que remplacer une chose par autre chose, j'ai l'impression que c'est du Coluche, c'est pas toujours mieux. Par exemple, le numérique qui ne cesse de se développer, le télétravail, ça remplace les transports, mais le numérique ne cesse de se développer et ne cesse de polluer. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, chiffre qui va doubler dans les années qui viennent. Comment réagissez-vous face à cette réalité? Et vous qui utilisez tous les deux le numérique fortement. Je ne vous le reproche pas, mais comment traiter ce problème?
Il y a des méthodes pour diminuer l'impact de son utilisation numérique, dans la manière de filmer, dans la manière de gérer par exemple les tournages. Nous, tous nos courts-métrages sont produits en éco-production, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui réfléchissent sur comment est-ce que ce tournage peut impacter le moins possible l'environnement. Maintenant, il faut aussi être capable, à mon sens, d'utiliser les outils qu'on a aujourd'hui et se dire que ça peut avoir une puissance telle, parce qu'on peut toucher d'un coup des millions de gens qui peuvent être ensuite au courant de l'urgence et donc avoir envie d'agir. Donc pour moi, il faut aussi penser en termes de proportion et d'impact quand on réfléchit à comment est-ce qu'on utilise ça. Maintenant, bien évidemment qu'on ne va pas pouvoir continuer à utiliser du numérique à ce rythme-là très longtemps. Ça, c'est certain qu'il va falloir à un moment donné changer.
Comment vous financez vos vidéos puisque c'est ce que vous avez choisi de faire?
Moi, j'avais
Vincent,
ouais, redire un truc sur le numérique qui est que c'est évident qu'on vit à travers le système, tout le monde. Personne n'a pas le capitalisme dans sa maison, même s'il est militant anticapitaliste. Et qu'en fait, il faut aussi prendre les choses en proportion. Quand j'entends dans votre journal que Netflix se fait sanctionner par la bourse parce qu'ils ont pas réussi à avoir 2 millions en plus d'utilisateurs, alors même que c'est des absolus mastodontes de la consommation numérique et que leur poids augmente chaque année. C'est bien qu'il y a des règles du jeu, encore une fois, c'est l'économie qui font dévisser le système. Donc c'est pas tant les individus qui font des petites vidéos sur YouTube ou sur Instagram que les grandes plateformes qu'il faut réguler.
Voilà, c'est pas Netflix qui a dévissé, c'est l'action en bourse de Netflix. Netflix se porte très bien, vous avez raison de le souligner. Comment vous êtes financés tous les deux?
Moi, en tout cas, je fais du financement participatif, c'est-à-dire que nous, c'était important pour nous que ce soit gratuit, c'est-à-dire que les gens aient accès gratuitement sur YouTube, parce que justement, une question de privilège aussi, et des gens qui peuvent pas forcément se payer les moyens d'aller sur des plateformes diverses et variées pour avoir accès à l'information. Et vu qu'on veut qu'elle soit la plus massive et ouverte possible, on décide de recourir à un Kiss Kiss Bank Bank. D'ailleurs, il reste 10 jours. Donc, n'hésitez pas.
Alors, vous visiez 15 000 euros, si je suis bien informé, vous avez déjà récolté 32 500 euros. C'est le bon chiffre?
C'est absolument ça. Ça nous permettra de faire donc deux épisodes de notre série pour l'instant.
Même question à Vincent Vezra. Comment êtes-vous financé?
100% par les dons de nos abonnés. Je considère que c'est un cercle vertueux. En sens où si on ne sert plus à rien, et ben les gens vont arrêter de donner de l'argent pour qu'on fasse nos vidéos. Et que si par contre ce qu'on fait est utile, ils vont nous permettre de le faire en toute transparence sur nos besoins. Et ouais, ça fonctionne comme ça depuis un bout de temps. Et je pense que c'est indispensable pour avoir une information indépendante et pouvoir traiter les sujets en toute liberté.
Merci beaucoup pour votre présence dans cette émission et merci pour votre belle énergie à tous les deux. Camille Etienne, Pensée Sauvage, bientôt la série. Et Vincent Vezra, Partager c'est sympa. On partage, on est sympa. C'est sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Merci encore à tous les deux d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, on va...